Journal présenté par Antoine Marette. Bonsoir.
Bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 2 août, le Venezuela, les chiffres de la participation de dimanche dernier sont contestés par l'entreprise informatique chargée du vote, et ceci alors que les membres de la constituante sont sur le point de prêter serment. Le grand nettoyage à l'œuvre en Turquie, il concerne désormais le secteur militaire, les chefs des forces armées vont être remplacés. Dans l'actualité française, la colère des élus locaux, Emmanuel Macron supprime 300 millions d'euros de dotations allouées pour les collectivités territoriales. Le régime social des indépendants qui vit ces derniers jours, le RSI montré du doigt par la Cour des comptes, concerne 7 millions de personnes en France. 18h15, du grain à moudre d'été avec vous Mélanie Chalandon.
Et oui, nous reviendrons sur cette très longue grève du personnel de la maison de retraite des Opalines dans le Jura qui a pris fin la semaine dernière. Manque de personnel, manque de moyens, un cas loin d'être isolé en France. Alors vieillissement et dépendance, sommes-nous dans le déni? C'est la question dont nous débattrons avec trois invités. Annie Devivi, fondatrice et rédactrice en chef du site hvillage.com, Pascal Chanvert, président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées, et Serge Guérin, sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement.
On vous retrouve dans 13 minutes. Au Venezuela, l'opposition vient de marquer un point. Alors que les membres de la constituante s'apprêtent à prêter serment, la contestation des résultats de dimanche n'est plus seulement politique. L'entreprise informatique chargée du vote vient d'annoncer que les chiffres de la participation avaient tout simplement été manipulés. Selon le PDG de cette entreprise britannique, la participation au scrutin est très inférieure à ceux annoncés par les autorités. À Caracas, la correspondance de notre envoyée spéciale Sandrine Etorindeg.
En se basant sur la robustesse de notre méthode, nous savons, sans le moindre doute, que le chiffre de la participation à l'élection d'une assemblée constituante a été manipulé. C'est la déclaration fracassante d'Antonio Mujica, le patron de Smartmatic, une entreprise d'informatique vénézuélienne basée à Londres, chargée du vote de dimanche dernier. Il y a une différence, dit-il, entre les chiffres réels et les chiffres annoncés par le gouvernement d'au moins 1 million de voix. Ces déclarations s'ajoutent au concert de voix qui, depuis dimanche, dénoncent un processus frauduleux, à commencer par l'opposition galvanisée par ces annonces, qui, elle, a évalué la participation à 12%, loin des 41% du Conseil national électoral. Il y a aussi Luisa Ortega, la procureure générale, chaviste dissidente sur la sellette. Elle s'est déclarée absolument certaine que les chiffres n'étaient pas corrects. Et puis enfin, la communauté internationale, on le sait, de nombreux pays ont annoncé qu'ils ne reconnaissaient pas la légitimité du résultat. Tout ça n'empêchera pas les 545 membres de cette assemblée de prêter serment aujourd'hui au cours d'une longue cérémonie en présence de Nicolas Maduro. Interrogé sur ces révélations, un membre du gouvernement m'a répondu « Je ne sais rien ».
Le grand nettoyage à l'œuvre en Turquie, les chefs des forces armées vont être remplacés. C'est le Conseil militaire suprême qui l'a annoncé après un conclave de 4 heures présidé par le Premier ministre. Mais derrière cette décision plane l'ombre du chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan, qui compte bien faire le ménage dans cette institution rebelle. À Istanbul, les précisions d'Alexandre Billette.
C'est une décision inattendue du Conseil militaire suprême dirigé par le Premier ministre turc. Les chefs des trois armées, armées de terre, marine et aviation, ne sont pas reconduits. Le chef de l'état-major, Hulusi Akar, lui, reste en place. Un an après la tentative de coup d'État, ces changements indiquent que Recep Tayyip Erdogan, qui valide cette décision, fait toujours confiance au numéro 1 de l'armée. Mais le président turc entend visiblement remodeler de fond en comble l'appareil militaire, une structure déboussolée depuis le putsch raté, avec notamment la moitié des généraux qui ont été renvoyés, les écoles militaires fermées. L'armée turque est en pleine crise au moment même où elle est engagée notamment dans le nord de la Syrie. Ces changements marquent donc en quelque sorte le dernier chapitre d'une série de réformes adoptées après la tentative de coup d'État. Plus de contrôle du gouvernement sur les décisions militaires, plus de civils dans les instances militaires. Bref, une armée aujourd'hui plus que jamais sous la tutelle du président Erdogan.
On connaissait les particules fines de moins de 2,5 microns. Voici maintenant que les autorités indiennes s'inquiètent de l'augmentation de la concentration de celles encore plus fines, celles de moins d'un micron de diamètre. Une étude menée pendant un an révèle leur nocivité et parmi les responsables potentiels de leur émission, les voitures au diesel. À New Delhi, les précisions de Sébastien Farcy.
Ces particules extra-fines mesurent moins de 1 micron, soit 1 millième de millimètre, ce qui leur permet de rentrer plus profondément dans l'organisme par les voies respiratoires. Mais faute de mesures adéquates, aucun seuil sanitaire international n'a encore été établi, à la différence de ce qui est fait pour les autres particules. Cette étude de l'organisme indien de météorologie a été menée pendant un an à New Delhi et Bombay et relève des niveaux relativement élevés. Surtout, ceci ne change quasiment pas en fonction des saisons, contrairement à la concentration en particules de 2,5 microns qui augmente dans la capitale avec les fumées agricoles de l'automne ou les poussières de construction au printemps. Il n'y a guère que les pluies de mousson qui tombent entre juin et août qui offrent un bref répit aux citadins. Selon une experte, cela confirmerait que les véhicules sont les principaux responsables de ces émissions et particulièrement ceux roulant au diesel qui rejettent de très fines particules. Cette pollution pourrait baisser en Inde après l'instauration d'un carburant plus raffiné à partir de 2020, mais d'ici là, près de 2 millions de nouveaux véhicules devraient rouler sur les routes de New Delhi.
Au Brésil, début agité d'une séance parlementaire cruciale pour Michel Temer. Des membres de l'opposition contestaient avec véhémence au sein même de l'hémicycle. Le chef de l'État est accusé de corruption. Il va donc être fixé sur son sort grâce à un vote du Parlement. Si 2/3 des députés décident d'un procès devant la Cour suprême, il risque d'être inculpé et écarté du pouvoir pour 6 mois. Donald Trump vient de signer la loi imposant de nouvelles sanctions économiques à la Russie. Elle avait été adoptée par le Sénat. Il l'a signée tout en la critiquant. Selon lui, le Congrès y a adjoint des clauses non conformes à la Constitution qui empiètent sur l'autorité du président. Malgré ces problèmes, je signe cette loi au nom de l'unité nationale, a-t-il conclu. C'était une promesse du président Macron. Il affirmait le 17 juillet dernier qu'il ne toucherait pas au crédit alloué aux collectivités locales. Sauf qu'Emmanuel Macron a finalement annulé 300 millions d'euros de dotation allouée pour les collectivités locales. On l'apprend aujourd'hui. Bonjour Iliane Malka.
Bonjour Antoine.
La pilule n'est pas facile à avaler pour les élus locaux, d'autant plus que la nouvelle est assez inattendue.
Oui, alors revenons tout d'abord sur la chronologie précise des événements. Le 17 juillet, Emmanuel Macron s'exprime devant les associations d'élus. À l'occasion de la conférence des territoires, le président affirme qu'il n'y aura pas de baisse brutale des dotations aux collectivités en 2018. Quelques jours plus tard, le 20 juillet, pourtant, un décret est signé. Il annule des crédits de l'État aux collectivités qui correspondent à 300 millions d'euros. Ce matin, l'info sort dans Libération. Alors même si les coupes portent sur cette année et que la promesse d'Emmanuel Macron évoquait l'an prochain 2018, les élus se sentent quand même trahis et ils n'apprécient pas la méthode. Sébastien Jumel est député communiste de Seine-Maritime.
Désormais dans la presse, on est mieux informé qu'en venant au Parlement, et donc les maires de France et de Navarre apprennent en lisant le journal à quelle sauce ils vont être mangés. Décidément, on a un gouvernement qui a décidé de s'en prendre à la France qui souffre et à l'outil de proximité que représentent les communes.
Du côté de La République En Marche, on cherche à être rassurant. Les annulations de crédit, dit-on, ne portent que sur des projets non réalisés. Écoutons le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner.
Ligne par ligne, les services ont identifié des opérations qui n'étaient pas engagées sur cette année, qui n'étaient pas payées. Vous savez, il arrive à un préfet de donner de la dotation pour un projet. Finalement, le projet n'aboutit pas. Il fait un peignage. Évidemment, quand vous prenez une décision stratégique de limiter le déficit à 3%, de trouver 4,5 milliards d'euros, à chaque fois, ça peut apparaître comme des comptes d'apothicaire.
L'opposition se mobilise déjà. Nathalie Goulet, sénatrice centriste, appelle les élus de territoires ruraux à engager un bras de fer pour éviter que les secteurs fragiles soient, dit-elle, asséchés financièrement.
Merci Ilan Malka. Michel Mercier défend sa cause. L'ancien ministre de la Justice nommé par le président du Sénat Gérard Larcher au Conseil constitutionnel était auditionné ce matin par la commission des lois du Sénat. Il s'agit d'une simple formalité. Sauf que le sénateur Modem vient de faire son entrée dans la saga des emplois familiaux épinglés par le canard enchaîné. Il a en effet employé ses filles, dont une apparemment habitait à Londres. Il ne dément pas l'information, mais la justifie. On l'écoute.
Il est tout à fait exact. Pas de raison de le cacher. En plus, ce n'est pas interdit. Ce sera interdit quand la loi sera votée. Pour l'instant, elle n'est pas votée. J'ai employé une de mes filles, d'août 2012 à avril 2014, sur des points très particuliers, parce qu'à l'époque, je conduisais des dossiers localement très lourds en matière culturelle et très difficiles. Elle était domiciliée en France. Ce qui a été publié n'a jamais été le contrat qui a été appliqué. Elle était à temps partiel, elle a assuré son travail, dans un certain nombre de domaines culturels, de préservation du patrimoine, de coopération internationale où elle avait une expertise. Et en avril 2014, on a considéré l'un et l'autre que les sujets sur lesquels elle avait une expertise, on les avait traités et on a mis fin au contrat. Ça s'est passé comme cela et je tiens à la disposition du Sénat les travaux qu'elle m'a donnés et qu'elle a faits.
Michel Mercier avec Corinne Audouin. Le régime social des indépendants vit sans doute ses derniers jours, qualifié de catastrophe industrielle par la Cour des comptes. Il a été créé en 2006, il est le résultat de la fusion de plusieurs caisses. Il gère les cotisations sociales, maladie et retraite des professions indépendantes, dont les auto-entrepreneurs. Cela concerne tout de même 7 millions de personnes. Mais entre cotisations indues, courriers combinatoires et retards de paiement, le RSI n'a pratiquement jamais fonctionné correctement, d'où la promesse de tous les candidats à l'élection présidentielle de le supprimer purement et simplement. Bonsoir Anne Lorchouin.
Bonsoir Antoine.
Alors une mission est en plein travail pour proposer une solution à la rentrée, et ce alors que le RSI commence tout juste à régler ses problèmes.
C'est en tout cas ce que faisait valoir ce matin le vice-président du RSI, qui estime que les difficultés réelles de la caisse, liées notamment à d'énormes problèmes informatiques au moment de son lancement, sont en voie de résolution. Mais il fustige surtout le flou qui entoure la suppression du RSI. Pour l'instant, la voie qu'a choisie le gouvernement, ce serait d'adosser le régime social des indépendants, donc la gestion de leur retraite et de leur assurance maladie, au régime général de la sécurité sociale. Fausse bonne idée, pense Grégoire Leclerc. C'est le président de la Fédération des auto-entrepreneurs qui représente aujourd'hui les auto-entrepreneurs, la moitié des travailleurs indépendants en France.
C'est une erreur grave. Et si vraiment le gouvernement va dans cette direction-là, le remède sera pire que le mal. C'est-à-dire qu'on aura demain un traitement des indépendants qui sera pire que celui dont on se plaint aujourd'hui avec le RSI. Notre crainte, c'est vraiment la simplicité du quotidien. C'est-à-dire un seul interlocuteur qui connaît l'indépendant, qui sait comment fonctionne son modèle économique, qui sait que les cotisations sont prélevées non pas sur un véritable revenu, mais sur un revenu théorique, et notamment en l'occurrence celui de verser l'année d'avant, qui d'ailleurs n'est pas toujours le même que celui versé l'année en cours, et certainement pas le même que celui versé l'année future. Et tout ça, c'est des sujets qu'il faut absolument que le régime général appréhende, sinon ils vont parler aux indépendants comme s'ils parlaient à des salariés ou à des employeurs, alors que c'est pas du tout le fonctionnement classique d'un indépendant.
Il faut être honnête, continue Grégoire Leclerc, le RSI commence à mieux fonctionner et ne doit plus apparaître aujourd'hui comme l'épouvantail qu'il était hier. Si l'on veut mieux gérer l'assurance sociale des indépendants, il faut peut-être penser à des solutions nouvelles ou qui en tout cas s'adapteraient aux évolutions du marché du travail. Pourquoi par exemple ne pas l'insérer dans le CPA, le compte personnel d'activité mis en place avec la loi El Khomri? C'est ce qu'il propose, mais la piste ne semble pas être à l'étude pour l'instant.
Merci Anne Lorchouin. Ça y est, enfin presque, il faudra attendre le 13 septembre pour que ce soit officiel, mais tout semble réuni pour que Paris obtienne ses JO en 2024, 100 ans après les dernières Olympiades dans la capitale française. Une issue due au report de la candidature de Los Angeles, la ville californienne se positionne désormais pour les Jeux de 2028, un retrait qui ne va pas sans quelques compensations financières, Antoine Poitot.
Car c'est désormais bien connu, ce rendez-vous quadriennal est aussi une affaire de gros sous. Les Jeux Olympiques, souvent présentés comme une opportunité économique exceptionnelle, s'avèrent le plus souvent être des gouffres financiers. Pour ne prendre que l'exemple le plus récent, l'été dernier à Rio, le budget a explosé de 51% et c'est loin d'être le pire bilan. Le champion de la catégorie, c'est Montréal pour les Jeux de 1976 qui auront coûté 7 fois plus que prévu. Et si Paris table pour 2024 sur un budget de 6 milliards d'euros, à en croire l'économiste Alexandre Delegue, il faudra plutôt s'attendre à en débourser 15. Alors si Los Angeles a bien voulu céder la place à la ville lumière, ce n'est pas que pour ses beaux yeux. En effet, l'accord tripartite entre le Comité international olympique, Paris et Los Angeles prévoit une compensation plus importante pour la ville américaine, entre 1,8 et 2 milliards d'euros contre 1,2 milliard pour Paris. L'objectif annoncé d'Eric Garcetti, le maire de Los Angeles, est simple, organiser des JO économiquement sobres et sans conséquences pour le contribuable. Rappelons que les Jeux de 1984 avaient été les premiers à dégager des bénéfices en confiant l'organisation exclusivement à des acteurs privés. Et en 1984, c'était déjà à Los Angeles.
Demain, il fera beau partout, à part en Bretagne, comme ça arrive parfois. Les températures vont légèrement remonter. 20 degrés à Cherbourg, 26 à Paris, 33 à Montpellier. C'est la fin de cette édition préparée avec Caroline Bento. Prochain journal à 22h, il vous sera présenté par Sébastien Berriot.